This is Radio France International.
De Paris, RFI, $120.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et toute sa diversité. Ce soir, c'est avec donc vous, Mélissa Schemann de la rédaction en anglais.
Good evening.
Il sera question des réfugiés, déplacés, migrants, avec des entretiens réalisés à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Pour la rédaction en russe, Denis Strelkov.
Добрый вечер.
Les élections législatives anticipées en France, vues de la Russie, avec vous. Et puis, Pizemam, de la rédaction cambodgienne.
Добрый вечер.
Vous nous parlerez de cette ONG qui s'appelle Centrale et qui fait l'objet d'une campagne de dénigrement de la part des autorités. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est le débat la nuit dernière aux États-Unis, à 4 mois de l'élection présidentielle. C'était un duel Joe Biden-Donald Trump sur la chaîne de télévision CNN.
My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker.
I did nothing wrong. We'd have a system that was rigged and disgusting. I did nothing wrong.
How many billions of dollars do you owe in civil penalties for molesting a woman in public, for doing a whole range of things? Of having sex with a porn star on the night while your wife was pregnant.
On entend donc un extrait de cet échange entre Donald Trump, survolté, et Joe Biden, un peu éteint. Pizemam, ce débat s'est déroulé dans des conditions très particulières.
Oui, Philippe, afin d'éviter la cacophonie comme lors du premier débat en 2020, CNN a adopté des règles strictes, cette fois-ci, censées encadrer les échanges entre Joe Biden et Donald Trump. L'émission s'est déroulée sans public et sans prompteur. Les deux hommes ont 2 minutes pour répondre à chaque question de présentateur et 1 minute pour répliquer à son adversaire. Et surtout, le micro de l'un est coupé pendant que l'autre s'exprime. Comparant au débat télévisé que l'on a en ce moment en France, je peux vous dire, Philippe, que l'atmosphère était bien sinistre sur le plateau de CNN à Atlanta.
Oui, d'autant qu'il n'y a pas eu en direct de vérification de ce que disaient l'un et l'autre, l'ancien président et l'actuel chef de l'État.
Effectivement, il n'y avait pas de fast-checking en direct. Pendant 1h30, Donald Trump a pu enchaîner des contre-vérités sans que Joe Biden, très affaibli, puisse lui rétorquer. Notamment en ce qui concerne l'abolition du droit à l'avortement, Donald Trump affirme que c'est quelque chose que tout le monde voulait, alors qu'en réalité, la majorité des Américains reste attachée à ce droit. Donald Trump a pu dérouler sans contradiction des mensonges sur la situation économique américaine à la fin de son mandat, sur l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole ou sur la question migratoire, tandis que les deux journalistes modérateurs sont restés passifs et silencieux.
Alors Mélissa, ce débat télévisé a duré 90 minutes, 1h30 donc, et avant même la fin de cette émission, eh bien les critiques ont fusé de toutes parts.
Et oui Philippe, et notamment contre le président sortant Joe Biden. Alors sa voix était à peine audible, disaient les uns, ses mouvements étaient lents, son regard absent pour les autres. Le président américain a plusieurs fois bégayé, il s'est repris laborieusement, a perdu le fil de sa pensée, etc. Et c'est du pain béni pour Donald Trump qui s'est permis de commenter un moment en affirmant « Je n'ai rien compris à la fin de sa phrase, je ne sais même pas s'il sait lui-même ce qu'il voulait dire », à tel point que le Parti démocrate parle désormais de potentiellement trouver un autre candidat pour remplacer le président.
Et ça, c'est possible ?
Alors, le flou demeure. La convention nationale démocrate doit se tenir du 19 au 22 août à Chicago. Et c'est là que les délégués, les militants et les dirigeants nomment officiellement leur candidat pour le parti à cette présidentielle. Ce débat fait la une du New York Times, au Guardian, au Royaume-Uni. Et notamment, le quotidien britannique souligne que beaucoup se demandent si le parti devrait sérieusement réfléchir peut-être à une autre option, celle-ci étant trop radicale.
Oui, on parle de Kamala Harris qui est la vice-présidente. Hein.
C'est un peu l'idée.
Denis, vous avez également regardé ce débat, puis les commentaires de la presse américaine qui a relayé l'inquiétude donc, du camp démocrate après cette piètre prestation du président sortant.
Oui, selon la presse américaine, 2/3 des électeurs prévoyaient de regarder ce débat. Il ne fallait surtout pas faire des grosses erreurs pour chacun des deux candidats. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'attendait à ce que Joe Biden attaque Donald Trump sur ses procès juridiques, sur son populisme, qu'il explique clairement sa vision de l'avenir des États-Unis. Mais à la fin, c'est Trump lui-même qui était plus clair, plus énergique et surtout plus discipliné, à tel point que même les électeurs démocrates, eux, ont été déçus.
Est-ce que ce débat vous a fait penser à ce qui se passe en Russie?
Les vrais débats présidentiels, on ne les a pas vus en Russie depuis l'année 2000. Donc ça fait longtemps, Vladimir Poutine a toujours refusé d'y participer. Ses concurrents, eux, ont eu de la chance de débattre ses idées sur différents plateaux, mais sans candidat principal, ça a peu d'intérêt. Cela permet à Vladimir Poutine d'éviter des questions brusques qui le mettaient mal à l'aise, même si au Kremlin, toujours évoqué d'autres raisons pour ne pas participer au débat, que tout le monde déjà connaît Vladimir Poutine, donc ça ne sert à rien d'expliquer de nouveau son programme. Une situation pareille en Russie, on ne peut pas l'imaginer aux États-Unis, ni d'ailleurs dans d'autres démocraties, y compris la France, où les débats jouent également le rôle primordial, même si après deux tours de débats pour les élections législatives anticipées de ce dimanche, on n'a pas vu un tel effet de ces discussions entre les candidats que c'était le cas aux États-Unis.
Justement, on reparle des législatives en France avec vous dans quelques minutes. En tout cas, voilà pour ce premier débat Biden-Trump. Un autre est prévu à la fin de l'été. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 heures à Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
En France, la campagne électorale s'achève avec le premier tour des élections législatives après-demain. Le scrutin est très suivi en Russie. Denis Strelkov, de la rédaction russe de Radio France Internationale. Pourquoi est-ce que ces élections fascinent ainsi les Russes?
D'abord, ces élections sont inattendues et elles arrivent en période d'été, où il n'y a pas d'habitude beaucoup d'actualités importantes qui se passent. Ce qui se passe en France intéresse aussi parce que le pays va accueillir les Jeux Olympiques et les élections politiques peut avoir un impact sur leur déroulé. Ceci est un événement majeur pour la politique française étrangère, même si c'est toujours le président qui est le chef des armées. Selon la Constitution, les élections en France peuvent avoir un impact sur la guerre en Ukraine, sur la stabilité politique. Ce qui est de ce point de vue qu'on regarde ces élections en Russie.
Alors pendant des années, la Russie a soutenu l'extrême droite française et inversement, puisqu'on se souvient des images de Marine Le Pen en 2017 qui était à Moscou, à côté de Vladimir Poutine à quelques jours de la présidentielle. Est-ce que les partis d'extrême droite français, surtout le RN, sont toujours ceux que préfère le Kremlin?
Marine Le Pen, elle, ne cesse de la répéter. Elle n'a jamais été sous l'influence de Vladimir Poutine, mais historiquement, les positions de son parti ont été le plus favorables à Moscou. À l'époque, Marine Le Pen disait que la Crimée a choisi librement de se tacher à la Russie, par exemple. Mais il faut rappeler que le chef de la France insoumise, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi était à Moscou en 2018. Il a défilé sur la place Rouge lors d'une cérémonie du 9 mai, le jour de la victoire en Russie.
Et concernant Jordan Bardella, qui se projette, lui, sur le poste de Premier ministre?
Il prend un peu plus de distance, il n'affirme pas que son parti, au cas d'arriver au pouvoir, cessera de fournir des armes à l'Ukraine. Il parle même de l'impérialisme russe qui menace l'Europe. Cependant, M. Bardella a rappelé les fameuses lignes rouges qu'il ne faut pas franchir avec la puissance nucléaire. C'est un concept que Moscou essaie de promouvoir depuis le début de la guerre en Ukraine. Jordan Bardella s'est également prononcé contre l'envoi à l'Ukraine de missiles longue portée qui pourraient frapper directement les territoires russes et contre l'envoi des troupes sur les territoires ukrainiens, ce qui n'est pas exclu par Emmanuel Macron.
Alors vous l'avez rappelé, en France, c'est le président, pas le Premier ministre, qui reste le chef des armées. Est-ce que l'Assemblée nationale, qui va donc être élue après-demain avec les députés, quelle que soit sa composition, peut avoir une influence sur la guerre en Ukraine?
S'il y a une cohabitation, il y a de nombreuses possibilités pour le Premier ministre de freiner les initiatives du chef de l'État. Pour ceux qui sont de la cession ou la vente des armes à l'Ukraine ou à n'importe quel autre pays, ils doivent être validés par la commission interministérielle selon Le Monde, qui est placée indirectement sous l'égide de Matignon. Il y a un accord qui est menacé en particulier, celui de coopération en matière de sécurité, qui a été signé entre Paris et Kiev en février. Ce dernier n'a pas été ratifié par le Parlement. Le vote qui a eu lieu était seulement consultatif. Il prévoit une aide importante à l'Ukraine, jusqu'à 3 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. La France insoumise a voté contre et le RN s'est abstenu.
Autre chose, Denis Strelkov, on parle souvent des actions d'influence de Moscou pour peser sur le résultat des élections un peu partout dans le monde, en passant souvent par les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un risque en France pour le scrutin d'après-demain?
C'est toujours difficile d'en parler en l'absence des enquêtes crédibles qui arrivent souvent beaucoup plus tard, comme c'était le cas aux États-Unis. Mais on sait que sur les réseaux, il y a des messages en russe qui disent que Emmanuel Macron promet 100 euros pour ceux qui votent pour lui, pour son parti. Ce qui est faux, bien évidemment. Ils sont publiés sur les comptes assez suivis en Russie, jusqu'à 700 000 abonnés. Ces comptes sont liés au réseau de la propagande russe contrôlé par des structures proches du Kremlin, selon différentes sources. Mais là aussi difficile de dire pour l'instant qu'il s'agit d'un vrai tentatif d'influencer les élections, car c'est une manipulation assez banale et peu crédible.
Et on pense quoi dans les médias russes de ces élections anticipées, plus largement ?
Les médias russes de propagande se félicitent des élections et tentent le chaos dans le pays, peu importe le résultat en fait. Pour le site d'État RIA Novosti, même la victoire de Yordan Bardella n'est pas optimale pour la Russie, car elle n'appelle pas des mesures radicales comme l'arrêt de l'aide à l'Ukraine. Pour ces journalistes, c'est Florian Philippot qui serait le pion optimal pour la Russie, mais pour l'instant, il ne serait pas le Premier ministre. Quant à Emmanuel Macron, les échecs de cet homme pointilleux sont une raison de notre jubilation justifiée, car elle nous souhaite une défaite militaire. Voici ce que disent les médias russes. L'autre ici, Spoutnik, voit que c'est le soutien de la France à l'Ukraine qui a provoqué même cette crise politique.
Denis Strelkov de la rédaction russe de RFI. Intéressons-nous maintenant à la situation des déplacés dans le monde au terme de la journée mondiale des réfugiés décrétée par l'ONU, d'autant, Mélissa Chemam, de la rédaction anglophone, que le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, a publié des chiffres alarmants.
Et oui, le nombre de personnes déracinées dans le monde a franchi la barre des 120 millions en mai dernier. Alors cela est dû à des conflits, des violences, des catastrophes naturelles ainsi qu'au changement climatique. Principale cause de cette augmentation est particulièrement des conflits comme celui en Ukraine qu'on vient d'évoquer, mais aussi au Soudan après un an et un mois de guerre. Alors dans ce pays, ça a évidemment des conséquences sur les Soudanais, mais aussi sur les autres réfugiés qui se trouvaient au Soudan avant la guerre, depuis des années. Cela concerne principalement les Sud-Soudanais, eux-mêmes chassés donc par de violents conflits depuis l'indépendance. Alors, pour parler du sort de ces rapatriés qui doivent donc quitter le Soudan pour rentrer au Soudan du Sud, la rédaction anglophone de RFI a contacté Aaron Atkins, le coordinateur des opérations humanitaires pour l'Organisation internationale pour les migrations, IOM. Il est basé au Soudan du Sud. Écoutez.
In the northern part of South Sudan, the primary entry point into South Sudan has been a...
Que vous a-t-il expliqué ?
Alors, il explique comment il travaille, que dans la partie nord du Soudan du Sud, il y a un point d'entrée principal, Renk, qui est une ville, essentiellement donc, depuis avril 2023. Les organisations humanitaires ont vu une arrivée importante de rapatriés, et ce sont donc des Sud-Soudanais qui vivent au Soudan. Le nombre de rapatriés a été jusqu'à 1500 à 2000 par jour pendant des mois, parfois 2500 personnes. Ils devaient traverser cette frontière dangereuse entre le Soudan et le Soudan du Sud.
Alors, est-ce qu'il y a un espoir pour que la situation évolue et favorablement ?
Alors, c'est effectivement, les situations sur le terrain sont très difficiles, mais IOM, comme le HCR, s'apprête à gérer ces arrivées. Ils pensent que le pays fait face à quand même des contraintes, comme une grave stagnation économique. Pour aider ces opérations, il faudrait évidemment plus de fonds. C'est ce que nous dit Aaron.
The continued challenge is the lack of infrastructure in the area. We're talking about a very remote part of South Sudan.
Le défi permanent. Exactement. Le défi permanent au quotidien, c'est ce manque d'infrastructure dans la région. Il y a très peu de routes. Il s'agit d'une partie isolée du Soudan du Sud. Évidemment, climat très chaud, des infrastructures qui manquent, à part dans le comté de Renk, mais c'est la transition vers le sud qui manque d'infrastructures. Donc les opérations restent très coûteuses. Par exemple, il faut utiliser des avions au lieu de transports locaux et donc ils font appel à leurs donateurs et espèrent plus de soutien.
Cette situation est évidemment extrême. Qu'en est-il du sort des déplacés et des réfugiés ailleurs en Afrique ?
Alors, on avait vu récemment dans un rapport qu'effectivement, dans le cas africain, la plupart des déplacés restent en Afrique, y compris les réfugiés. Mais il y a quand même des notes d'espoir. Vous savez qu'au Sahel, il y a d'autres conflits type insurrection djihadiste. De nombreux Maliens, Burkinabés, Nigériens doivent partir de chez eux. Et dans un certain nombre de cas, ils se retrouvent en Mauritanie voisine. C'est ce dont j'ai parlé avec Marie-Beth Black du Programme alimentaire mondial des Nations Unies en Mauritanie dans notre podcast Spotlight en Africa. Avec elle, nous découvrons comment notamment dans ce conflit différent plus long, le gouvernement mauritanien a réussi à intégrer avec succès ces réfugiés dans le pays, qui donc devraient pouvoir rester et s'intégrer.
Mauritania is incredibly stable for the moment and is really sort of, as we say, the eye of a hurricane in terms of stability.
Donc, elle nous dit qu'effectivement, la Mauritanie est particulièrement stable pour le moment dans cette région, comme un ouragan, et là, ce serait l'œil stable. Donc, c'est aussi un pays qui a été leader, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais à travers le continent sur ces questions d'aide aux réfugiés. et notamment leur permettant d'avoir accès aux services sociaux locaux, aux programmes de protection. Et ça, c'est à travers notamment des cash transfers, comme l'appelle le WFP, le PAM, le Programme alimentaire mondial. Et donc, ils espèrent pouvoir discuter de ce modèle et comment le rendre réplicable dans d'autres pays à travers le monde.
Mélissa Chemam de la rédaction anglophone de Radio France Internationale. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe au Cambodge. Là-bas, une ONG qui s'appelle Centrale est depuis quelques jours victime d'une campagne de dénigrement de la part des autorités. Pizemam, de la rédaction cambodgienne, expliquez-nous pourquoi.
Oui, Philippe, cette situation résulte d'une publication début juin d'un rapport de l'ONG Centrale, le Centre pour une alliance du droit du travail et droits humains au Cambodge. Ce rapport, réalisé avec quelques syndicats indépendants dans les usines textiles et de chaussures au Cambodge, nous informe de la situation alarmante des exercices du droit syndical dans les usines cambodgiennes. Depuis, l'ONG Centrale fait face à une campagne de dénigrement de la part de quelques syndicats ayant une tendance pro-gouvernement. Et comme par miracle, ces syndicats pro-gouvernement ont pu organiser des manifestations sans entrave devant les ministères afin de dénoncer ce rapport et demander la dissolution de l'ONG Centrale.
Alors justement, que dénoncent précisément ces syndicats pro-gouvernement, Pizet ?
Alors ces syndicats reprochent à l'ONG Centrale de vouloir nuire aux intérêts des ouvriers et des usines en publiant un faux rapport et qui fait peur aux grands marques, les acheteurs. Écoutons Huy Sambat, le porte-parole d'un des syndicats pro-gouvernement.
On entend donc Huy Sambat, le porte-parole d'un des syndicats qui s'aligne sur la position du gouvernement. Que dit-il ?
Alors, il nous explique que le travail de l'ONG Centrale n'aide absolument pas les ouvriers cambodgiens. Au contraire, cette ONG est en train de faire peur aux investisseurs étrangers. Le rapport mensonger publié par l'ONG porte atteinte au progrès économique du pays et surtout, ça va engendrer des conséquences négatives sur la stabilité du travail et le revenu des ouvriers.
Et que répond cette organisation non gouvernementale, c'est-à-dire ONG, l'ONG Centrale, à ces accusations ?
Alors, l'ONG Centrale se défend en déclarant que le rapport a été réalisé de façon sérieuse. Écoutons M. Kuntaro, un des responsables de l'ONG Centrale, au micro de notre collègue AFI à Phnom Penh.
Alors, que dit Kuntaro ?
Alors, M. Kuntaro nous dit que cette enquête a été faite en collaboration avec plusieurs syndicats indépendants dans 14 usines parmi les quelques 700 usines de textiles et de chaussures que compte le Cambodge. Il reconnaît que l'échantillon est certes restreint, mais que cela témoigne de la situation difficile de la liberté syndicale dans ces usines. Pour lui, l'ONG Centrale, qui a été toujours sérieux, n'a rien à se reprocher. D'autant plus, selon lui, le bureau de l'Organisation internationale du travail au Cambodge cautionne aussi ce travail d'enquête. Mais pour l'heure, Philippe, les syndicats qui semblent jouer les jeux des employeurs d'usines et le gouvernement ne s'arrêtent pas là. L'affaire est désormais portée devant la justice. J'ajoute aussi aujourd'hui qu'une quarantaine d'associations et d'ONG cambodgiennes ont déclaré leur solidarité à l'ONG Centrale. La Confédération des syndicats du Cambodge, CATU, s'est même déclarée que la violation de la liberté syndicale est encore pire par rapport à ce que dit dans le rapport.
Pizemam, donc, de la rédaction cambodgienne de RFI. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale et sur l'application, et puis vos sites respectifs, hein, bien évidemment, que vous avez sur internet pour retrouver des enquêtes d'ailleurs un peu plus longues, hein, puisque sur internet et en presse écrite, on va dire ça, on est toujours un peu plus disert qu'en radio. Merci pour votre participation, Mélissa Chemam, Denis Strelkov et Pizemam dans Accent du Monde, réalisé ce soir par Valentin Vanner.